L'Afrique en jeu, Silver Henri Cissé.
Je voudrais aussi profiter de ce moment tellement particulier pour moi pour vous dire merci. Merci au président de la République et au Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci plus largement à la France et à cette République si accueillante que je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui servir. Il n'y a pas plus belle manière de rendre à la France ce qu'elle m'a donné depuis mon arrivée en 1984 à l'âge de 9 ans de Roumanie. Mes parents avaient alors l'âge que j'ai aujourd'hui. Ils ne parlaient pas un mot de français et ne connaissaient personne ici. Merci à eux d'avoir permis à mon frère et moi de vivre nos vies de manière libre.
Cette République si accueillante, vous l'avez entendu, c'est un message plein de sincérité de la part de l'ancienne ministre des Sports française, Roxana Maressianou. Elle remerciait la France lors d'une passation de pouvoir dont le sens prend encore plus de profondeur à la lumière des dernières élections législatives. Une passation de pouvoir au ministère des Sports en septembre 2018 entre l'ancienne championne du monde de natation, Roxana Maressianou, qui prenait le témoin transmis par une autre grande championne, la légende de l'escrime, Laura Flessel. Laura Flessel, la ministre des Sports qui a ramené les Jeux Olympiques à Paris, sera notre invitée aujourd'hui pour nous parler de son parcours et nous expliquer comment le département français de la Guadeloupe a pu donner tant de champions à la France. L'Afrique en jeu qui devient un conseil des ministres, oui, un conseil des ministres avec l'ancienne ministre des Sports, Ramayad, qui vit et travaille aux États-Unis et qui nous donnera depuis les États-Unis son point de vue sur différents sujets sports. Les États-Unis, justement, il en sera question aujourd'hui dans Une photo, une histoire avec l'historien Claude Bolli pour Mohamed Ali, passé de sportif banni à héros adulé par toute une nation en 1996. L'Afrique en jeu, J-13, ça approche, J-13, c'est maintenant. Non. Ramayad, merci de nous accorder cet entretien. Vous avez été secrétaire d'État chargé des sports de Nicolas Sarkozy en 2009-2010. Vous êtes depuis 3 ans à Washington, aux États-Unis, directrice Afrique de The Atlantic Council, un think tank américain très influent, spécialisé dans les relations internationales, où vous êtes en charge, entre autres, de la diplomatie sportive. Nous vous avons invité pour votre expertise à la croisée des chemins. Comment l'Afrique est-elle considérée aux États-Unis ? C'est notre première question dans le contexte des Jeux Olympiques.
Des noms émergent parmi les sportifs africains les plus attendus, les plus connus. Mais je citerai l'exemple de mon sport favori, le basketball, les sports collectifs aux États-Unis. Selon Adam Silver, le patron de la NBA, plus de 10% des basketteurs de la NBA sont africains, sont nés en Afrique ou ont des parents africains. Les États-Unis ont plus frappé fort en créant la Ligue africaine de basketball, qui est déjà un très grand succès depuis plus de 3 ans. Et j'avais eu l'occasion en 2022 à Dakar, au Musée des civilisations noires, de lancer un Sports Business Forum en partenariat avec la Ligue africaine de basketball, en présence de toutes les stars de la NBA, dont Mutombo ou encore les héros des Toronto Raptors. Enfin, c'est dire à quel point, quand on est un think tank, lancer un programme sur la diplomatie sportive, c'est profiter de cet écosystème de la NBA. À la NFL, c'est pareil. L'écosystème est aussi exceptionnel, avec de plus en plus d'Africains. On sait que la NFL a lancé des académies d'entraînement, de formation en Afrique, profitant de la présence de joueurs d'origine ghanéenne ou nigériane dans la compétition. Donc voilà, les Africains sont bien repérés, bien connus aux États-Unis et portent très haut l'étendard africain.
La diplomatie sportive dont vous parlez a pris une dimension colossale dans la compréhension des enjeux des grands événements sportifs. En ce qui concerne la diplomatie américaine, prend-elle en compte l'Afrique ? Et si oui, quelle Afrique et dans quelle mesure ?
Le souvenir le plus fabuleux de la diplomatie sportive américaine continue d'être le match du siècle, le 30 octobre 1974, lorsque l'ancien champion du monde des poids lourds, Mohamed Ali, défiait le tenant du titre, George Foreman, à Kinshasa. C'est un fait d'armes inégalé qui continue d'être une référence, la référence ultime. Mais de manière plus prosaïque, le département d'État américain a, il est vrai, une longue histoire de collaboration avec les athlètes américains pour les promouvoir auprès des publics étrangers, y compris en Afrique. Et aujourd'hui, de manière beaucoup plus concrète, on voit que le département d'État a développé des programmes qui permettent en fait de faire des interactions entre les athlètes américains et les athlètes africains, ou d'accueillir aux États-Unis des athlètes africains à travers des programmes de formation comme le Sports Visitor Program. La Coupe du Monde de football aux États-Unis en 2026 créera sans doute beaucoup de traction, de connexion entre Américains et amateurs africains de football, qui est évidemment un sport roi en Afrique. Le secrétaire américain, le secrétaire d'État américain Blinken à Abidjan lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le comité diaspora de Biden était aussi à Abidjan. Cela montre que les Américains savent l'importance du football en Afrique.
Abidjan, la Côte d'Ivoire, justement, parlons-en avec Marie-Josée Talou, la sprinteuse ivoirienne qui s'entraîne aux États-Unis et participe au plus grand meeting d'athlétisme. S'est plainte sur les réseaux sociaux de l'indigence de l'organisation du dernier championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Et même des spécialistes américains de l'athlétisme ont été également étonnés du sort réservé à une compétition continentale de ce niveau. Manifestement, le manque de moyens est patent dans l'athlétisme africain. Alors, quel regard portez-vous sur cette situation et quelles en sont les conséquences ?
Mais combien d'athlètes africains abandonnent leur nationalité d'origine pour embrasser celle d'une autre nation mieux pourvue en infrastructure ? C'est la véritable question qui est posée au gouvernement africain. Les problèmes sont de toutes sortes, même lorsque ces athlètes se qualifient aux Jeux Olympiques. On entend déjà les témoignages comme liés au manque de bourses, des bourses insuffisantes ou qui arrivent trop tard, l'absence de stages d'entraînement à l'étranger qui est tellement important avant les compétitions internationales puisqu'il s'agit de se mesurer à ses adversaires. Souvent, les athlètes doivent abandonner leur emploi, ce qui est un risque pour le long terme, payent de leur poche, font avec les moyens du bord et dans un cadre qui est juridique et parfaitement incertain puisque le code du sport n'est pas toujours existant ou complet. Donc, lorsque les conditions sont meilleures en France ou aux États-Unis, il est tout à fait normal que les sportifs, ou compréhensible en tout cas, que les sportifs quittent le pays. On en connaît pas mal qui vivent aux États-Unis dans le cadre de leur préparation olympique ou même tout simplement sportif.
Oui, mais le problème que vous évoquez, Ramayad, est le risque d'un grand vide. Le continent africain ne risque-t-il pas de devenir uniquement un réservoir de talents pour les grandes nations, notamment pour les États-Unis, qui sont véritablement en force avec la puissance et l'attrait de leur système universitaire ?
Pour éviter ces expatriations sportives qui privent l'Afrique de talents, j'avais fait un certain nombre de rapports à la Banque mondiale lorsque j'y travaillais il y a quelques années. Elles sont encore valables, hein, comme la codification du sport, le soutien aux associations sportives de quartier, le développement du sport scolaire, l'investissement dans les infrastructures de proximité. Mais je crois aussi que l'organisation des Jeux par une nation africaine aurait un effet d'entraînement extraordinaire. Organiser le plus grand événement sportif du monde est un privilège que l'Afrique n'a jamais eu. C'est le seul continent à n'avoir jamais organisé les Jeux Olympiques. Alors actuellement, l'Égypte lorgne sur les Jeux de 2036. Et la dernière fois qu'un essai avait été tenté et sérieusement tenté, c'était sous l'impulsion de Nelson Mandela, qui était alors président de l'Afrique du Sud, pour les Jeux de 2004, dont l'organisation est finalement revenue à Athènes. Quant aux Égyptiens qui candidatent actuellement pour 2036, ils ont déjà essayé trois fois en vain. Donc je pense que le temps de l'Afrique est venu. L'Afrique et l'Olympisme, c'est une vieille histoire. Et l'Afrique fournit de grands talents à l'Olympisme. Donc je crois qu'il y a, un potentiel qui est fort, mais il faut créer une impulsion qui permettra de débloquer tous les problèmes que j'ai décrits tout à l'heure. Donc espérons que cela puisse se produire à court terme.
Parlons de sport et politique maintenant, Ramayad, avec des sportifs qui se sont engagés en France contre le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, avec des sportifs, notamment les joueurs de l'équipe de France, qui ont fait des appels pour ne pas voter pour ce parti, et ces appels ont fait polémique. Qu'en est-il aux États-Unis dans le débat opposant Trump à Biden ?
Il faut constater une cassure entre Donald Trump et les sportifs américains. Cela a commencé dès son élection. Ici, je vous renvoie au formidable documentaire de Netflix sur le joueur de football américain Colin Kaepernick. LeBron James aussi a pris position contre lui. Du côté des sportifs blancs, la NFL notamment, qui est plus blanche et est vue d'ailleurs comme plus républicaine. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est la manière dont l'équipe de Donald Trump scrute avec inquiétude ce que pourrait dire Travis Kelce des Chiefs de Kansas City. Travis a la particularité d'être le fiancé de Taylor Swift, un couple très progressiste, beaucoup plus que les préjugés ne le laisseraient croire. Et pour les républicains, et notamment pour Trump, ces deux personnalités, ces deux stars qui ont longtemps été considérées comme ressemblant au public républicain. Prendre position pour un démocrate serait un désaveu cinglant. Donc très sérieusement, tout le monde observe le couple Travis Taylor avec beaucoup d'attention dans la perspective de cette élection présidentielle.
Quelques mots maintenant sur un espace d'une grande importance dans les grands événements sportifs que vous avez fréquentés. J'aimerais bien que nous parlions de la tribune présidentielle, Ramayad. Oui, la tribune présidentielle dans un stade. Quels enjeux se nichent dans cette tribune lors des moments clés que sont les cérémonies d'ouverture et de fermeture, sans oublier les grandes finales?
Je dois dire que c'est quand même stressant, la tribune présidentielle. On a beau être apprécié, quand on l'est, en tant que ministre des Sports, par le monde du sport, on craint toujours la réaction du stade quand la caméra zoome sur vous pendant un match. Je me suis toujours demandé d'ailleurs d'où le coup partait et entraîner tout un stade vers ou les huées ou les applaudissements. Mais c'est un moment très stressant et beaucoup de présidents, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, ont eu à subir les huées d'un stade et en présence de millions de téléspectateurs. C'est un moment qu'on ne souhaite pas vivre et heureusement j'y ai échappé. Et j'ai deux grands souvenirs de tribune. D'abord, mon grand souvenir, c'est évidemment la Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'avais eu la joie, c'était une première pour l'Afrique d'abord, et ensuite j'avais eu la joie, Mandela était encore vivant, d'être très proche de Madiba. La délégation française était toute petite, hein, signe du scandale qui s'annonçait avec l'élimination précoce de l'équipe de France. Mais à cette époque, on sentait déjà à la tribune présidentielle ou d'honneur ou officielle que la maigreur de la délégation française était annonciatrice du désastre de l'équipe de France pendant cette compétition. Mais je crois que mon plus grand souvenir, quand même, c'est l'émotion du Vélodrome. L'émotion du Vélodrome qui commence à l'extérieur, lorsque tout un peuple, Marseille, comme en procession, se dirige vers le stade. C'est une sensation extraordinaire. Et de la tribune présidentielle ensuite, je me suis sentie toute petite, car j'ai compris tout de suite que ce n'était pas là, dans cette tribune présidentielle, que ça se passerait. Mais de l'autre côté, en face, là où étaient les supporters, les vrais patrons du Vélodrome.
Merci Ramayad d'avoir dégagé du temps dans votre agenda, que nous sommes très chargés pour l'Afrique en jeu. Je rappelle que vous êtes à Washington aux États-Unis et que vous dirigez la partie Afrique du think tank Atlantic Council. Conseil des ministres, acte 2 avec Laura Flessel, qui elle aussi est parvenue à se libérer de ses nombreuses obligations en période de Jeux Olympiques, qui a été ministre des Sports d'Emmanuel Macron et qui a fondé Sport Excellence Reconversion, un centre de formation pour les sportifs de haut niveau.
Une femme, un destin.
Laura Flessel, merci d'être avec nous dans l'Afrique en jeu. Est-il besoin de vous présenter ?
On va faire un tout petit peu pour les jeunes qui ne me connaissent pas.
Championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, championne de France, vous avez tout gagné en fait.
Voilà, et capitaine d'une équipe de France olympique aux Jeux de Londres.
J'avais oublié ça, pardon. On avait reçu Harry Méfond dans l'Afrique en jeu, le directeur des sports de Guadeloupe. On s'était interrogé avec lui sur la capacité qu'ont les athlètes guadeloupéens, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à remporter des titres. Comment vous expliquez justement la qualité du sport guadeloupéen et cette faculté à remporter des victoires ?
Effectivement, je vais rappeler un chiffre. 101 sportifs de haut niveau, olympiens et paralympiens, depuis la naissance des Jeux modernes. 101, 3 porte-drapeaux, Marie-Josée Pérec, Teddy Riner et Laura Flessel, 2 ministres des Sports, Roger Bambuc et Laura Flessel, et une ribambelle de champions. En fait, on a une recette simple, c'est utiliser l'espace qu'on nous donne pour exceller. Et cela dans tous les sports. Et c'est vrai que moi, on m'a connue à l'escrime, où tout le monde disait que c'était pas un sport pour noirs, c'était pas un sport pour familles modestes. Et ben, quelque part, ben, on a réécrit en fait l'histoire et on s'est donné le moyen. C'est vrai que nous sommes à 7000 km, mais l'idée, c'est juste se surpasser et quelque part jouer.
Vous l'avez entendu, ça, c'était dans votre jeunesse, c'est pas un sport pour noir ?
C'est pas un sport pour noir, c'est pas pour une famille modeste. Et ma mère, qui n'a pas pu faire du sport de compétition ayant un potentiel, elle s'est toujours dit, si elle a des filles, elle pousserait. Et effectivement, débordante d'énergie, limite insolente, quand j'étais sous les hauts de mes 5 ans et demi, je lui ai dit un jour, je vais être championne. Elle m'a dit, trouve ton sport. J'ai eu le coup de foot, ça a été l'escrime. Et 40 ans plus tard, j'étais encore là.
On va s'arrêter sur cette séquence. Quel est le moment de bascule où vous avez justement défié ce qui ne voulait pas que vous alliez vers l'escrime?
En fait, je suis partie avec mon bagage à 18 ans, le bac en poche, qui était le minimum syndical pour assurer ma mère. Je suis partie dans un univers où c'était l'INSEP, où c'est par excellence, c'est en fait là où on rencontre les meilleurs avec les meilleurs. Et ce que moi j'ai accepté, c'est d'être avec les meilleurs ou contact des meilleurs pour devenir meilleur. C'était ma logique. Et je me suis rendu compte que là, en l'occurrence, il y avait une petite différence. Ce que je n'avais pas vu auparavant, c'est que effectivement la pigmentation déplaisait. Et j'ai pris parti, caché derrière un masque, de bousculer les, gérer les paradigmes, parce que le sport c'est aussi écrit par des hommes, pour des hommes. Et donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de travailler avec les gens qui vont changer d'avis.
Nous sommes très écoutés en Afrique et votre témoignage est extrêmement important. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces jeunes filles justement qui peuvent rencontrer des freins, qui peuvent rencontrer des obstacles tels que vous les avez connus ?
Je dirais la première des choses, osez écrire votre rêve. Deuxième chose, osez partager cette envie et ce projet. Parce que dans l'environnement proche, il y aura toujours des gens qui vous diront « non, ce n'est pas pour toi ».
Donc il y a deux choses, écrire et partager. On va d'abord s'arrêter sur écrire. Mmh. Est-ce qu'une jeune fille là, qui nous écoute en ce moment, qui se trouve, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger, peut rêver d'être championne olympique là,
oui, aujourd'hui ? Tout à fait. Ouais. Championne olympique de son projet, championne du monde de son propre projet. Après, effectivement, il faut dédiaboliser le fantasme de la réalité. Mais il faut se donner les droits de... Et par la suite, il faut aussi que l'Afrique aide ces championnes. Parce que j'ai envie de faire un clin d'œil à Binta, qui est une escrimeuse sénégalaise, qui va faire les Jeux, qui est venue en fait ici pour rêver. Elle avait des posters sur ses murs de sa chambre.
Des posters
d'une escrimeuse appelée Laura. Ouais. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'un beau jour, il y avait effectivement à l'escrime, il y avait une noire. Mmh. Et j'ai suivi son périple en tant que sportive, en tant que ministre. Et par moments, j'étais en fait exacerbée par le fait que son propre pays ne l'aidait pas suffisamment. Lorsqu'elle fait elle passe en fait chez les amis et les cousins pour récupérer des sous pour payer sa Coupe du Monde, je dis stop, on est en 2024.
Mais ça, dans tous les pays, parce que aussi les sportifs français disent on ne nous aide pas assez.
Tout à fait, mais il y a déjà une base structurelle. Là, en l'occurrence, l'Afrique est en train de se bouger et il y a énormément de champions qui vont dans toutes les disciplines. Et donc, du coup, il faut écouter, il faut croire son champion. Et derrière, qui plus est, il faut en fait accompagner le sport au féminin, parce qu'il y a des pépites partout.
Le continent africain, c'est à peu près 5% de médailles. Sur les dernières Olympiades, sur l'ensemble des Jeux. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour qu'on dépasse ces 5%, qu'on atteigne 10% et 15% et pourquoi pas plus ?
Une vraie politique sportive d'accompagnement, gérée dans toutes les disciplines et par transversalité. Et je fais un petit clin d'œil au basket avec le président Suta. C'est justement renforcer les partenariats pour avancer. Parce qu'on peut rêver, mais derrière, il faut structurellement développer la masse pour aller chercher après un socle de la performance. Et je pense qu'on n'a rien sans rien. Et effectivement, les premiers décideurs, ce sont quand même les élus. Et par la suite, on travaille aussi avec un environnement économique, parce qu'il y a des sociétés qui ont les valeurs sportives qu'on peut intégrer pour justement créer des fonds, des bourses d'accompagnement pour les sportifs. Et à partir de là, on passera de 6 à 10, de 10 à 20, et soyons fous, on peut rivaliser, parce qu'il y a énormément de champions en fait, sur le bassin africain.
Quand vous parlez du président Suta, c'est Jean-Pierre Suta qui est le président de la Fédération française de basket, et le fondateur d'Olavoba, dont nous avons déjà parlé dans cette émission.
Tout à fait.
Vous dites partager. Parce qu'on a parlé d'écrire, maintenant partager. Comment partager ?
Avec des amis, avec la famille, avec le noyau dur, pour consolider en fait ce projet. Parce que c'est un projet humain et après ça devient un projet sportif. Et donc du coup, partager. Partager aussi avec les ambassadeurs, les anciens. Les anciens qui sont là pour aider. Souvent, on se dit, il est inaccessible. Non, faut juste en fait se permettre de dire, je vais parler à mon champion qui m'a fait rêver un beau jour. Et j'ai aussi une anecdote. Il y a un peu moins d'un an, la Guadeloupe, petit papillon de 450 000 habitants avec autant de champions, nous avons décidé, champions olympiques et paralympiques, de créer un club des Olympiens de la Guadeloupe avec 4 missions. La première mission, c'est fédérer. La deuxième mission, c'est accompagner les sportifs parce que après la carrière, on met 6 à 8 ans pour trouver une sérénité financière. Donc, les accompagner dans la reconversion. Troisième, c'est l'héritage. C'est comment, justement, utiliser cette force vive pour passer des messages à travers les écoles, qui est le quatrième pôle. C'est travailler avec la nouvelle génération, gérée par transversalité. Et effectivement, on s'est rendu compte que en fait, les jeunes, ils n'attendaient qu'une chose, c'est que les grands, les parents et les ambassadeurs puissent aller vers eux.
Merci Laura Flessel, vous êtes vraiment une femme inspirante. Merci.
Vous écoutez L'Afrique en jeu sur RFI avec Silver-Henri Cissé. Amazing, amazing flower like this. Early in the morning, as I emerge with the rising sun, I can't help smiling, thinking of all the best things to come. I've got
of the universe. This is a new hope, announcing the end of a violent storm. It's beginning a new dawn, all my sorrows are gone. You are the flower that blooms and know the fragrance in my life. The weather is blazing and I'm teasing you, my beautiful flower. We both burst in laughter like children, and I found myself again. You so, 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 so amazing. You so, 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 so amazing. Amazing, amazing flower like this I've never seen.
Un titre qui sent les tartines grillées du matin avec le café. So Amazing, Fada Freddy. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Mohamed Ali, de sportif banni à héros de toute une nation en 1996.
No, I'm just much greater than he is.
Je suis simplement beaucoup plus grand que lui.
He's still a good fighter.
Il peut encore se battre. Il peut battre Frazier.
He can beat everybody else in the world.
Il peut battre tous les autres boxeurs du monde, but not you.
Not me.
Mais pas moi.
I think he's a bad loser, first of all.
C'est un mauvais perdant.
Because I beat him every round.
Je l'ai battu à chaque round.
I bruised his face, cut his face.
Je lui ai squinté le visage et coupé son visage.
He was so tired, he couldn't stand up.
Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas rester debout.
If he had made the count, I would have surely knocked him down again.
Et s'il s'était relevé avant le compte, je l'aurais encore mis KO et descendu.
They said that I had no power.
On a dit que j'avais pas de puissance.
I couldn't take a punch.
Que je n'arrivais pas à encaisser.
And I did not have a knockout punch.
Et que je n'avais pas de quoi faire un KO.
I was too old.
Que j'étais trop vieux.
And George Foreman was too strong for me to win.
Et que Foreman était trop fort pour moi.
And as usual, I proved the critics wrong all the time.
Et comme d'habitude, j'ai prouvé aux critiques qu'ils avaient tort.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mohamed Ali, que d'aucuns considèrent comme le plus grand boxeur de tous les temps, savait faire parler de lui. Il a marqué de son empreinte l'histoire du sport, aussi bien par ses combats sur le ring, où il a tout gagné, que par ses prises de parole, qui étaient des spectacles à nul autre pareil. L'extrait sonore que vous avez écouté, que nous avons utilisé, date de 1974, de son passage à Paris, de retour de Kinshasa, où il avait disputé une rencontre considérée comme le combat du siècle. Un affrontement qui permit à Mohamed Ali de reprendre la couronne de champion du monde des poids lourds WBA et WBC devant George Foreman. Un combat historique remporté par KO devant un Foreman qui s'est fait compter à la 8e reprise de ce combat surnommé Rumble in the Jungle, que l'on pourrait traduire par Grabuge dans la jungle. D'ailleurs, une mosaïque de photos dans l'application Pure Radio de RFI à la page L'Afrique en jeu retrace cet épisode légendaire de l'histoire du sport. Claude Boly, vous êtes docteur en histoire contemporaine, responsable scientifique du Musée national du sport à Nice et chercheur associé à l'université de Leicester en Angleterre. Claude, pourquoi Mohamed Ali se mettait sans cesse en spectacle ?
Il faut savoir que dans cette Amérique des années 60, la ségrégation raciale a mis les minorités noires dans une situation de gens bannis. Donc il fallait absolument, pour certaines figures noires, il fallait avoir certaines postures. Et Mohamed Ali avait plusieurs postures, la posture des visibilités. Mmh. Il a voulu prouver en tant que black, en tant que noir, qu'un noir pouvait réussir. Il y avait une façon d'exprimer cette fierté d'être noir. C'est notre posture, c'est une posture de showman, un homme de spectacle, un homme qui aime plaire, un homme qui fascine. Et Mohamed Ali, dans ce sens-là, a voulu montré qu'il était à la fois très bon sur le ring, en dehors du ring, et puis quelqu'un aussi qui avait une maîtrise du verbe, une maîtrise des mots, donc vraiment une maîtrise du spectacle. Très une posture de l'excellence. Mohamed Ali était grand boxeur, donc il a voulu montrer aussi qu'être un grand boxeur, c'est être une grande personnalité noire, ça voulait signifier aussi être excellent dans ce qu'il fait. C'est aussi pour montrer qu'il était le meilleur, le plus grand.
Mohamed Ali, qui était réputé pour sa percussion verbale, un peu comme le footballeur Zlatan Ibrahimovic, il est célèbre pour ses punchlines, je peux en citer quelques-unes. Face à Joe Frazier, qu'il devait combattre, un jour il lui a dit « Joe, ce soir tu seras le premier satellite noir à tourner autour de la Terre ». Il a également dit à propos de Floyd Patterson « Je vais le taper tellement fort qu'il aura besoin d'un chausse-pied pour mettre son chapeau ». Il savait être également poète lyrique et pouvait se montrer sage. Aussi quand il disait « Le silence est d'or » quand vous n'avez pas de bonnes réponses à donner. Et c'était un homme engagé. On lui doit cette phrase qui est maintenant devenue célèbre. « Je n'ai rien contre le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Aucun Vietnamien ne m'a jamais appelé négro. » Vous êtes très sensible à Mohamed Ali, l'Africain. Qu'avait-il d'Africain, Mohamed Ali ?
Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait l'absence d'une connaissance approfondie de l'Afrique a amené un certain nombre d'Américains à mythifier ce continent, à cultiver un imaginaire de l'Afrique. Et chez Mohamed Ali, il y avait cette attitude, cette inclination, une Afrique rêvée, une Afrique imaginée, mythologisée. Et on va le voir à Kinshasa, où Ali a ce désir d'une africanité sublimée, avec déjà sa façon de s'habiller. Il a tenu aussi à apprendre le lingala, le fameux mot « Ali Mombaye, Ali Tue ». Il a été subjugué dans son séjour à Kinshasa de voir que les chauffeurs, plusieurs personnalités importantes de la vie à Kinshasa étaient noires. Donc je rappelle quand même ce désir d'africanité sublimée, imaginée.
Lors de ce combat en 1974, vous étiez tout jeune. Mais quel souvenir avez-vous de ce combat qu'on appelle le combat du siècle qui opposait Ali Aforman à Kinshasa ?
Déjà, toute l'Afrique était derrière Mohamed Ali. Il était beau, il était fort. Il était adulé et c'était un noir qui gagnait, c'était un noir qui avait la classe, qui avait tout pour plaire. Et la deuxième chose, l'Afrique était derrière Mohamed Ali parce que l'une des scènes qui a choqué beaucoup d'Africains, c'est de voir son adversaire, George Foreman, est arrivé à Kinshasa, il sort de l'avion, il arrive avec un berger allemand. Pour beaucoup de Zaïrois, voir un berger allemand, ça rappelle le colonisateur, le belge, etc. Donc c'est assez étonnant de voir qu'il y avait deux Amériques noires. Une Amérique noire africaine imaginée avec Mohamed Ali et il y avait aussi George Foreman qui était froid, qui, pour beaucoup d'Africains, ne ressemblait pas à l'Africain parce qu'il n'avait pas essayé de construire autour de lui une espèce de lien entre lui et la mère patrie.
Merci Claude Bolli. L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonissier à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme de Georges Clemenceau. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, et il faut ensuite l'énergie de le faire. Nous nous retrouverons même heure, même endroit la semaine prochaine. Toutes les émissions de l'Afrique en jeu sont disponibles en balado-diffusion, dans les podcasts de votre application, Pure Radio de RFI. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.